Cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Joseph le 30 mars 1987.
Progressivement, il y a des droits, le bien commun. là-dessus. Mais c'est bon d'essayer soi-même de comprendre ce qui est difficile à bien saisir. Eh bien, il y a un fait qu'il faut tout de suite bien saisir. C'est que notre appétit spirituel, c'est-à-dire notre volonté, n'a pas besoin d'habitus, de vertu, n'a pas besoin d'être déterminé dans l'ordre de l'amour. Et elle a besoin d'être déterminée dans l'ordre du droit. Alors ça, il faut bien le comprendre, parce que c'est intéressant à bien saisir. Il n'y a pas d'habitus particulier pour aimer. Naturellement, on aime, et c'est pour ça qu'Aristote souligne, quand il s'agit de la filia et de l'amitié, qu'il y a quelque chose de plus naturel dans l'ordre de l'amitié que dans l'ordre de la justice. L'amitié, qui est l'amour réciproque de deux personnes, est quelque chose de plus radicalement naturel que de poser un acte de justice. C'est très curieux. Ça touche quelque chose de plus profond, nous. Notre appétit spirituel, notre volonté, est capable d'aimer une personne et de considérer que cette personne, c'est mon bien spirituel qui m'attire. Et ceci est profondément naturel. Quand je dis naturel, c'est-à-dire profondément volontaire. Puisque la volonté, c'est un appétit spirituel qui s'enracine dans ce qu'il y a de plus moi-même. Donc quand je dis naturel, ça veut dire de plus moi-même. Ce qu'il y a de plus profond. Tandis quand il s'agit d'un acte de justice, j'ai besoin de préciser cet appétit spirituel par l'acquisition d'une vertu. Et l'acquisition de cette vertu sera la justice. Alors il faut se poser la question, pourquoi, lorsqu'il s'agit du droit de l'autre, à la différence de l'amabilité de l'autre, j'ai besoin d'une détermination qui progressivement s'acquiert pour vraiment regarder le droit de l'autre. Tandis que quand il s'agit d'aimer un autre, c'est quelque chose de plus radicalement naturel. Autrement dit, l'être humain, la personne humaine, puisqu'on touche la personne, au point de vue éthique, la personne humaine est plus profondément faite pour aimer que d'exercer la justice. Ça, c'est capital de comprendre ça, parce que ça fait tout de suite comprendre comment l'éthique personnelle fonde l'éthique politique. Au niveau politique, c'est l'inverse. Vous êtes un citoyen si vous exercez la justice, plus que si vous exercez l'amitié. Donc, au niveau communautaire et communautaire, niveau communautaire, c'est le sens de la justice qui prime. Je ne parle pas de la communauté religieuse, je ne parle pas de l'Église, je parle d'une communauté politique. Au niveau humain, c'est le sens du droit de l'autre qui prime. Tandis qu'au contraire, dans une éthique personnelle, qu'est-ce qui prime ? C'est le sens de l'amabilité de l'autre. Et là, c'est très très important de bien voir ça, parce que c'est là où on voit l'agencement fondamental de l'éthique personnelle et de l'éthique politique. quand il s'agit d'aimer l'autre, de regarder l'autre comme mon bien. Donc l'autre en tant qu'il m'attire, en tant qu'il m'envie, qu'il est le bien capable de susciter en moi un amour. Je touche là ce qu'il y a de plus radical dans ma capacité spirituelle d'aimer. Je suis fait pour cela, découvrir l'amabilité de l'autre. Et c'est en découvrant l'amabilité de l'autre, d'un bien personnel, que je me finalise. C'est à travers cet amour que je découvre mon bien et mon bien personnel. Tandis que découvrir le droit de l'autre, ce n'est pas découvrir mon bien. C'est respecter l'autre. Et en respectant l'autre, je me respecte. Mais le bien est plus profond que le respect, puisque le bien fonde le respect. Je respecte quelqu'un parce qu'au fond, il est une personne capable d'être mon bien. Et le respect à l'égard d'un autre est quelque chose de plus difficile à bien préciser que son amabilité. Pourquoi ? Parce que, justement, le droit de l'autre implique un ordre que n'implique pas l'amabilité. Et c'est pour ça qu'il faut que l'intelligence soit plus présente dans un acte de justice que dans un acte d'amour. Ça, c'est l'expérience quotidienne. Mais il faut justement bien y réfléchir. Dans un acte de justice, il y a un ordre. Tout acte de justice implique un ordre. Et nous allons le voir encore mieux en voyant la diversité des actes de justice. Mais dès que vous saisissez le droit d'un autre, il y a l'intelligence qui intervient pour saisir une relation. Puisque le droit d'un autre implique une relation, implique cette dignité de la personne. Qui a ses droits propres, qui a son autonomie et qui a le droit à exister d'une façon personnelle. Donc, dans tout acte de justice, l'intelligence intervient d'une manière plus explicite que quand il s'agit d'aimer quelqu'un. D'aimer quelqu'un, je me laisse attirer par son bien. L'intelligence est présente, il faut connaître pour aimer. Mais d'une connaissance, j'allais dire, beaucoup plus simple. C'est l'existence de cette personne qui suffit presque. Et c'est son amabilité qui m'envahit, qui me prend et qui m'attire. Je suis porté vers elle. Tandis que quand je pose un acte de justice pour respecter ses droits, je ne suis pas porté vers elle. Je la respecte comme l'autre. Mais si tu restes très simple à comprendre que l'acte d'amour éveille en moi un peu de chaleur, un acte de justice ne me réchauffe pas tellement le cœur. Je respecte l'autre. Et c'est à cause de l'intervention de l'intelligence plus grande dans l'acte de justice que dans l'acte d'amour. Qu'il est nécessaire qu'il y ait un habitus acquis qui écarte l'imaginaire. C'est toujours l'imaginaire qui est le grand obstacle à la vertu de justice. C'est toujours l'imaginaire qui est le grand obstacle à l'intelligence qui doit venir préciser de l'intérieur. Cet appétit spirituel qui se porte vers l'autre pour respecter ses droits. L'imaginaire, en effet, faut bien le reconnaître, l'imaginaire est lié à la passion. Oh, c'est pas si intéressant au niveau passionnel de respecter l'autre. Au niveau passionnel, je suis toujours porté à être le premier qui me sert. Je me précipite sur la confiture. Après moi, le déluge. Surtout s'il n'y en a pas beaucoup. Donc, instinctivement, l'appétit volontaire, l'appétit passionnel, se porte sur le bien par rapport à mon égocentrisme. J'ai terriblement égocentrique les passions. C'est moi, 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 toujours, mais pas le moi métaphysique du « je suis ». C'est le gros moi. C'est le moi très épais. C'est le moi qui s'appuie. Et tant qu'on n'a pas découvert ça, on est... Tout le monde s'aperçoit qu'on est d'un vaniteux extraordinaire, sauf celui qui est vaniteux. C'est aveugle. Ça aveugle complètement. C'est assez extraordinaire, ça. L'égocentrisme de la passion par rapport au bien sensible, par rapport à la grosse vanité. C'est pour ça que s'il n'y a pas un habitus dans la volonté qui vient permettre de voir le droit de l'autre, donc une vertu qui s'acquiert, on devient juste. On ne l'est pas du tout par nature, sauf Jean-Jacques. Autrement, on ne l'est pas par nature. Et je crois que Jean-Jacques, là, il se met un petit peu le doigt dans l'œil. Évidemment, si je suis seul sur une île, cette île m'appartient. Et donc, je suis vertueux et juste par nature parce que je suis seul sur cette île. Il faut être seul sur une île. Il faut d'abord donc renvoyer promener tous les autres. Alors, à ce moment-là, je peux exercer une libéralité extraordinaire. Vous voyez, je suis juste par nature. Et c'est comme celui qui est le grand propriétaire de tout. La devise, je me souviendrai tout le temps, à Étiole, juste en face, il y avait un château dont les propriétaires avaient comme devise « Ne demandez jamais rien à personne pour ne devoir rien à personne. » Ça, c'est une devise extraordinaire, au point de vue de la justice. Donc se mettre au-delà de la justice. Et ça, c'est très, très curieux. Hein. C'est passionnel, ça. Se mettre au-delà de la justice pour être seul. Seul araignée. C'est tyrannique. Et c'est vrai que l'imaginaire lié à la passion a une pente tyrannique. D'égocentrisme. On est le seul. On voit tous les défauts des autres. Et ces défauts, on ne les voit pas. L'Évangile dit ça admirablement. Notre Seigneur dépiste ça. Ce qui montre la nécessité d'acquérir la justice. Pour faire que la paille du voisin dans ses défauts soit justement que la poutre des défauts des autres ne soit pas augmentée d'une façon telle que on passe toujours devant. Je crois que c'est très important de comprendre dans l'ordre de la justice la nécessité de l'acquisition, de saisir le droit de l'autre. Alors nous allons maintenant préciser la diversité des droits. Et ça, c'est aussi très curieux. C'est là où on voit très bien que le droit implique un ordre, implique une relation. Les amitiés se diversifient par la finalité. Et le droit se finalise, se diversifie par la diversité des ordres. La justice, elle s'exerce toujours à l'égard de l'autre. Donc, de fait, elle s'exerce dans une petite communauté familiale politique. La communauté des travailleurs. Il y a une justice qui s'exerce. Et c'est là où on voit le fondement de toute communauté. Ce n'est pas l'amitié qui fait le fondement de la communauté. Vous pouvez avoir d'excellents amis, de merveilleux amis, et n'avoir aucun sens de la justice. C'est très curieux. Ne disons pas que c'est l'amitié qui me donne le sens premier de la justice. Non, 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 non. L'amitié demande d'être complétée par le sens de la justice. Et alors je peux dire que si nous n'avons aucun sens de la justice, progressivement, l'amitié, si merveilleuse qu'elle soit, va se corrompre. Et ça, ça se voit. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un plus petit. Le sens du droit de l'autre qui va nous aider à maintenir une véritable amitié. Ça aussi, c'est très important à souligner au point de vue éthique, au point de vue de sa propre auto-éducation. C'est au niveau communautaire que la justice se développe. Et le premier analogué de la justice est au niveau communautaire. Et j'allais dire, une communauté politique. Même pas la communauté familiale. La communauté familiale est directement dépendante de l'amour d'amitié. Tandis que la communauté politique est fondée sur le sens de la justice. C'est la justice qui fonde la politique, et ce n'est pas l'amitié. Il faut donc comprendre que, de fait, la vertu de justice va permettre d'avoir le sens communautaire. Et ceux qui n'ont aucun sens communautaire, il leur manque quelque chose. Il leur manque la vertu de justice, l'acquisition de la vertu de justice. Et je dis bien que si on n'a aucun sens communautaire, tôt ou tard, il y aura une répercussion. Il y aura une répercussion sur le point de vue de l'amitié. Pas directement, mais indirectement. Alors ça, c'est très très curieux. C'est, je crois, la répercussion du conditionnement de notre vie humaine par rapport à notre finalité. Notre finalité assume tout notre conditionnement. Notre finalité ne se sépare pas de notre conditionnement. C'est un au-delà du conditionnement. Mais ça ne se sépare pas du conditionnement. Vouloir séparer notre conditionnement de la finalité, c'est de l'illuminisme qui fait que tôt ou tard, l'amour se corrompt. Parce que c'est un manque de réalisme. Alors, il faut comprendre que la finalité première que nous découvrons dans l'ordre de l'amitié, puisque nous sommes partis de là, cette finalité première que nous découvrons dans l'ordre de l'amitié ne peut se garder, humainement parlant, que si on acquiert progressivement la vertu de justice. Si on méprise la vertu de justice en méprisant l'aspect communautaire, en disant « moi je suis au-dessus de la communauté, pour moi il n'y a que l'amitié », tôt ou tard, cette amitié va se corrompre. Par manque de Mais c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que la justice est gardienne de l'amitié. Il y a quelque chose de juste. La justice est gardienne de l'amitié. L'amitié dépasse la justice, c'est bien évident. Elle est beaucoup plus, ce que je disais tout à l'heure, elle est beaucoup plus naturelle. Elle est beaucoup plus enracinée directement dans ce qu'il y a de plus nous-mêmes. Mais étant donné la complexité de l'être humain, si nous méprisons la justice, il y aura une répercussion, tôt ou tard, sur l'amour d'amitié. C'est très curieux ça. Et c'est plus subtil hein, qu'on ne pense. Parce que très facilement, on dira, oh, moi, je suis fait pour la finalité. La justice, oh. Ce qu'on dit de temps en temps, vous savez, on dit de temps en temps que les religieux perdent le sens de la justice. C'est terrible, tu restes comme reproche. Mais c'est quelquefois un petit peu vrai. Parce que la justice, en premier lieu, c'est la justice commutative, donnant. Comme le religieux a fait vœu de pauvreté, il ne donne plus rien et ne reçoit plus rien. La justice commutative, c'est ça. Vous allez acheter un paquet de cigarettes, hein, le faites pas. Vous allez acheter un paquet de cigarettes, ça coûte tant. C'est-à-dire, votre travail, vous avez gagné tant. Alors vous pourriez préciser le paquet de cigarettes, tant de minutes de travail. Je gagne tant à l'heure, le paquet de cigarettes représente tant. Faites la comparaison, mais automatiquement, c'est bien évident. Je prends le paquet de cigarettes, prenez une auto, prenez tout ce que vous achetez. Justice commutative, c'est en référence à votre travail. Alors, quand de fait, pour un motif supérieur, vous faites vœu de pauvreté, vous voyez les conséquences. C'est que cette référence très réaliste de la justice disparaît. Et vous risquez à ce moment-là d'idéaliser et de perdre le sens de la justice. Ça, il faut bien le comprendre. C'est très très important de comprendre ça. Et de temps en temps se dire en référence, est-ce que j'ai gagné ma journée aujourd'hui? Vous voyez, attention, hein, faites pas ça tous les jours, parce que ce serait très faux. Mais en face de Dieu, on peut le faire. Est-ce que j'ai travaillé aujourd'hui un travail vrai, un travail efficace, un travail qui correspondrait à un contrat de travail pour maintenir le sens de ce que représente le travail et le fait de l'acquisition d'un certain bien représente une certaine valeur. C'est important pour nous de maintenir ce sens de rectitude. Il y a une rectitude là. Alors cette rectitude, chez quelqu'un qui est entièrement donné au Christ, cette rectitude, elle prend un autre fond. Prend ce fondement parce que je suis donné au Christ, je suis serviteur. Et parce que je suis serviteur dans l'ordre de l'amour, ce service est au-delà de tout contrat. On peut tout me demander au nom du Christ. Et alors il faut être vraiment serviteur, fidèle, doux et pauvre. Et c'est la notion de service qui maintient la justice. Et c'est vrai que c'est le service qui me donne le premier sens de la justice. Serviteur des hommes, serviteur du Christ. Et serviteur des hommes. Je suis serviteur des hommes par mon travail. S'il n'y a pas ce travail, je ne suis pas serviteur des hommes. Je deviens un parasite. Le parasite, c'est celui qui croit que parce qu'il existe, il n'a pas besoin de travailler. Alors, il vit en parasite. Un parasite d'une communauté. Oh, cette communauté, elle est tellement bonne que je peux y être. Sans pas d'importance. Ils sont 150. Un de plus, un de moins. Alors, on est parasite. Alors, si tout le monde est parasite un jour, vous voyez. C'est très important de ne pas accepter d'être parasite. Et ça, je crois que c'est foncier. C'est très foncier. On n'a pas le droit d'accepter d'être parasite. On peut l'être si Dieu nous enlève la santé. Alors, c'est très humiliant. C'est très dur. On doit accepter. Et on vous dit non, ne vous inquiétez pas. Mais c'est les autres qui le disent. Nous-mêmes, on s'inquiète tout. Pas être parasite. Voyez, le sens premier de la justice, c'est par le travail, par le service. Et ce travail et ce service me permet, grâce à un contrat de travail, de comprendre la valeur de mon travail. Objectif. Le contrat objectif, la valeur de mon travail. Quand je n'ai pas de contrat, j'estime moi-même la valeur de mon travail. C'est très bien quand on peut être petit artisan qui travaille à son compte. C'est très très bien. Mais ça demande justement toujours cette vérification objective. Parce que c'est dans la justice dite commutative. Donnant que s'exerce en premier lieu la justice. Et cette justice commutative, donnant, implique une objectivité qui s'impose à moi. Ça vaut tant. Justice commutative. Pour acheter ça, je dois verser tant. Et cet argent, il est en dépendance de mon travail. Mais ça explique que ceux qui reçoivent un patrimoine indépendant de leur travail et ceux qui font vœu de pauvreté ont un patrimoine divin. On est héritier du Christ. Un patrimoine divin. Comment ces deux doivent faire grande attention par rapport au sens de la justice, parce qu'ils risquent très vite de télescoper le sens de la justice. Or, on n'a pas le droit. On doit être des hommes justes. La justice. Mais c'est très très important de savoir si nous avons le sens de la justice, le droit de l'autre. Si on maintient ça dans notre vie, donc premier sens de la justice commutative. Donc, je regarde l'autre qui a des droits que je n'ai pas. Et je respecte les droits de l'autre. C'est dans le commerce que cette justice commutative devrait être le plus manifeste. Mais l'inflation du commerce aujourd'hui est telle que je dirais presque que c'est dans le commerce qu'on comprend le mieux, le moins bien la justice commutative. C'est extraordinaire de voir ça. Et quand vous voyez le prix du une réalité à la sortie de l'usine. Ça, c'est directement en fonction du travail. Du moins, ça devrait être en fonction du travail. Parce que c'est pas toujours comme ça. Et puis, le prix de vente. L'individu et tout ce qui se passe entre deux. C'est pour ça que c'est tellement difficile aujourd'hui d'avoir un sens de la justice commutative. La vraie valeur des choses. Oh, c'est ça que donne la première justice. Res adresse. Tout ce qui passe entre les deux. Vous voyez, le prix de sortie de la fabrication. Quand vous avez affaire à un artisan, il sait le prix de la matière. Il sait tout l'investissement de ses outils. Il sait le temps qu'il a passé dedans. Alors il peut évaluer le prix. Mais quand ce n'est plus un artisan et que c'est l'usine, vous voyez, à ce moment-là, tout peut être falsifié. Et tout est falsifié, il faut se le dire. Alors, cette falsification fait qu'on a de plus en plus de peine d'avoir un sens de la justice. Puisque l'exercice de la justice regarde la valeur objective d'une chose. Le sens premier de la justice commutative, c'est le troc. Faut pas l'oublier. Alors là, on voit très bien. J'ai travaillé tant de temps. Tu as travaillé tant de temps. Ce travail impliquait l'achat de cette matière. Toi, l'achat de l'autre matière. Oui, on peut dire en gros, ça se vaut. C'est ça le sens de la justice. D'évaluer de cette manière-là. Mais comme on est loin de ça. Vous voyez, comme nos sociétés actuelles, puisque c'est ça qu'on doit regarder, font qu'il y a tellement d'intermédiaires qu'on n'a plus le contact direct avec la vraie valeur des choses. Alors elle devient conventionnelle. C'est conventionnellement le prix d'une auto, c'est ça. Et quand cette auto a vieilli de plusieurs années, le prix c'est ça. Et on dit que c'est objectif, mais c'est conventionnel. Et c'est purement conventionnel. Alors, quand c'est purement conventionnel, où est la vertu? Ce n'est plus la vertu directe par rapport à la réalité. Je crois qu'il faut très fort comprendre ça, parce que le point de vue moral s'appuie sur les réalités du bien et non pas sur les conventions. Les conventions, c'est artificiel. Je dois l'utiliser, je dois les respecter, c'est bien évident. Mais je dois être conscient de cela. Et je dois savoir que première justice, donc la justice commutative, donnant. C'est le tronc. Ma réalité, telle réalité que j'ai fait, telle réalité que tu as fait. On peut estimer que ça vaut à peu près le même prix. La même valeur. Second aspect de la justice. Alors, lorsqu'il s'agit d'une justice à l'intérieur d'une communauté, justice légale. Alors là intervient énormément l'aspect conventionnel. Payer ses impôts. Payer ses impôts, ça relève d'une justice légale. Je paie mes impôts par rapport à la communauté dans laquelle je suis. Et cette communauté estime que chaque citoyen doit donner tant par rapport à ses revenus, par rapport à son travail, et ainsi de suite. loi qui précise ce droit. Que ça passe par des lois. Est-il légitime, je prends le cas aujourd'hui, n'est-ce pas, est-il légitime que tous les citoyens paient pour les avortements? Est-il légitime que tous les citoyens paient pour l'éducation publique alors qu'ils considèrent que leurs enfants doivent être éduqués dans cette éducation libre, qu'ils ne reçoivent pas de l'État nécessairement des remboursements? Et on vit dans un aspect de droit législatif qui constamment implique des injustices. Alors on se fait à soi-même l'équilibre. Et au bout d'un certain temps, on tombe dans une espèce de droit purement subjectif, puisque il n'y a plus de normes. Quand l'État est droit, très bien, je fais confiance. Et oui, il y a une confiance à faire à l'État. Et quand je sais tout ce qui se passe entre deux, je dis, mais je suis un imbécile de faire confiance. On me roule par tous les bouts. Et donc, première fois, on a payé parfaitement ses impôts. Une seconde fois aussi. Puis on se fait prendre. Alors la troisième fois, on prend un petit équilibre. Pour ne pas se faire prendre. Alors on considère la justice à l'égard de l'État comme une douane. La douane, c'est pas tout fait, la justice. Hein. Il suffit de ne pas se faire prendre. Bien les impôts, il suffit de ne pas se faire prendre. Donc il n'y a plus de justice. C'est pour vous montrer qu'on vit dans un monde où petit à petit la vertu de justice disparaît. Et je crois ça la chose la plus grave. Parce que s'il n'y a plus de vertu de justice, il n'y a plus le sens du droit de l'autre. Et alors petit à petit, ce sera la passion de l'irracine qui dominera, la vendetta. On sait ce que ça représente. Ça conduit directement à l'anarchie. Troisième espèce de justice, ceux qui doivent exercer l'autorité. Ce qu'on appelle la justice distributive. Je crois que toute la structure de la justice repose bien sur ces trois types de droits. Je crois que c'est structural, ça. Je ne peux pas parler de justice sans ce tissu de relations. C'est très, très curieux, ça. Ce qui fait que si on était seul sur une île, la justice serait réduite à très peu de choses. La vertu de justice s'exerce dans une communauté. Et la vertu de justice, c'est quelque chose d'autre que l'amitié. L'amitié assume une certaine justice, le droit de l'ami. Mais le droit de l'ami n'est pas ce qu'il y a de premier dans l'ordre de la justice. Alors, la justice distributive, voyez ce que c'est. Celui qui doit exercer l'autorité doit autant que possible chercher le bien commun de la communauté. Et pour que le bien commun de la communauté puisse se réaliser parfaitement, il faut autant que possible faire que chaque citoyen, quand il s'agit de la communauté politique, soit à la place où il peut être le plus efficace pour le bien commun. Où il peut rendre les plus grands services pour le bien commun. Si, en raison d'une amitié, je donne aux petits copains les bonnes places, je détruis une faute contre la justice distributive, qui est la faute la plus grave au point de vue de la justice. On reviendra là-dessus. Ça, c'est très très important pour comprendre la corruption d'une communauté politique. La corruption d'une communauté politique se fait toujours par les petits copains. C'est-à-dire à la place d'avoir un regard juste, d'intelligence, sur les capacités de tous les citoyens, en passant par les diverses autorités, on met devant des petits copains ceux du parti, ceux qui nous ont par derrière graissé la main. Ah, ça, ça détruit absolument une communauté. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je demanderai aux étudiants séminaristes et ceux qui suivent les cours habituellement, donc comme étudiants, de se trouver tout de suite dans la salle Sainte.